Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais lorsque je découvre à la télé ou sur internet une publicité pour la marque Airbnb, j'ai un peu l'impression de voir une publicité pour un iPhone, de la musique, un peu d'humour et quelques clichés, les codes de la Silicon Valley sans doute, le symbole aussi d'une entreprise qui, comme Apple, a connu une croissance planétaire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, et dès 17h sur le site leséchos.fr.
Dans l'hypercentre de Paris, aujourd'hui, un logement sur quatre ne sert plus à loger des Parisiens. C'est-à-dire que nous avons des logements qui se sont transformés en machines à cash à destination des touristes.
Le coup de gueule de Yann Brossa, militant communiste et adjoint à la mairie de Paris. C'était en 2018 au micro de l'AFP. Il appelait à plus de régulation face au poids grandissant de ce géant du tourisme. Des critiques entendues à Paris, mais aussi à Strasbourg, à Bayonne ou Annecy et dans de nombreuses villes touristiques à l'étranger. Le Californien Airbnb a envahi le monde et bousculé les entreprises du tourisme traditionnel depuis sa naissance en 2007. Et si la crise du Covid avait un temps obéré sa rentabilité et sa course en avant, la plateforme ne manque pas d'ambition. Elle a même prévu d'annoncer quelques innovations le 1er mai. Bonjour Isabelle Lesniak.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste aux Échos Week-end et vous avez écrit pour l'hebdomadaire une enquête sur le phénomène Airbnb. L'entreprise a été créée il y a 17 ans et aujourd'hui, elle se porte comme un charme.
Le chiffre d'affaires a été multiplié par deux par rapport à avant le Covid, à l'exercice 2018-2019, et il atteint à peu près 10 milliards de dollars. Longtemps, Airbnb n'a pas été rentable. Les premiers profits annuels sur toute une année datent de 2022. Et en fait, à la fois au niveau des locataires et des propriétaires, l'entreprise est en plein boom. Ça n'a pas toujours été le cas dans leur histoire, puisque depuis la naissance en 2008, il y a eu des hauts et des bas. Alors, ça avait assez bien commencé puisque Airbnb est devenue une licorne dès 2011, une décacorne en 2013, donc 10 fois le milliard. Puis après, il y a eu le Covid. Et donc, évidemment, le Covid a été une période extrêmement compliquée pour toutes les entreprises de tourisme et surtout pour Airbnb puisqu'on ne voyageait plus. Entre septembre 2019 et septembre 2020, les réservations dans les 8 destinations phares ont été divisées par 2. Ils se sont séparés du quart de leurs effectifs. Et donc, les excellents résultats annuels sont d'autant plus frappants qu'on revient d'une période post-Covid.
Ouais, ça veut dire que le groupe est vraiment parvenu à se remettre de cette crise du Covid qui avait freiné le tourisme mondial pendant près de 2 ans.
Oui, c'est ça. En fait, à la fois, ils se sont recentrés avec le Covid sur leur métier de base. Et donc, ça, finalement, ça a été peut-être bénéfique à long terme pour l'entreprise. Le métier de base, c'était de mettre en contact des propriétaires et des voyageurs de façon très simple, avec une interface bien faite, puisque les 3 cofondateurs sont 2 designers et 1 ingénieur. Donc, c'était fait depuis le début pour simplifier la vie des voyageurs et des propriétaires. Et donc, finalement, avec le Covid, tout ce qui était la diversification à outrance a été un peu abandonné. Juste avant le Covid, Airbnb avait notamment acheté un site de location de villas d'ultra-luxe canadien qui s'appelait Luxury Retreats. Et finalement, on a abandonné ces projets, on a abandonné l'idée de racheter une compagnie aérienne. On a abandonné l'idée de produire des documentaires de tourisme pour bien se centrer sur l'offre de base. Et puis, le Covid a permis une réflexion sur l'avenir du tourisme, à quoi ressemblerait le tourisme demain. Et Airbnb a été très très bon pour utiliser les tendances actuelles du tourisme, c'est-à-dire l'allongement des séjours. Donc 19% de leurs séjours sont supérieurs à 28 jours, donc c'est presque 1 mois et même quelquefois 3 mois que certains réservent chez Airbnb. Airbnb. Il y a eu un rééquilibrage campagne-ville, donc actuellement c'est à peu près 49% contre 51%, alors que c'était vraiment une solution pour les grandes métropoles. Maintenant, on peut aussi trouver des Airbnb dans des campagnes ou des banlieues où il n'y avait pas d'offres hôtelières. Et puis, ils ont été évidemment excellents pour récupérer tout ce qui est voyage hybride professionnel et personnel. Donc, on va télétravailler quelques jours avant de faire des meetings en ville, ou on prolonge le séjour professionnel par quelques jours dans un Airbnb. Et ça, évidemment, ils sont beaucoup mieux positionnés pour répondre à cette demande que les hôtels, puisque il y a même des filtres maintenant, par exemple le Wi-Fi performant, qui permettent de savoir où on va pouvoir télétravailler avant ou après les loisirs.
Ça porte un nom d'ailleurs, ça a venu des États-Unis encore une fois.
Notamment Workation, qui est donc une contraction de work et vacation, mais il y a plein d'expressions que les Américains ont inventées pour ce phénomène qui n'est plus seulement une niche, enfin beaucoup de gens le font en fait.
Ah, j'ai découvert qu'on parlait aussi de bleisure, la contraction entre business et leisure, les affaires et le loisir. Autre tendance observée notamment sur le marché américain, les voyageurs recherchent des logements plus spacieux, avec 3 chambres ou plus pour ceux qui aiment voyager en groupe. Le Covid a changé la vision du tourisme et du travail. Il a aussi changé la façon dont les employés du groupe Airbnb travaillent.
Oui, alors depuis 2022, tous les salariés peuvent travailler n'importe où dans le monde sans impact sur le salaire. Donc il y a même un service qui en fait s'occupe de les aider pour les problèmes fiscaux, enfin ou déclarer du coup ses impôts, etc. On me racontait que par exemple au bureau au Japon, il y avait des gens qui étaient partis passer plusieurs semaines en Colombie. Et le cofondateur que j'ai pu interviewer, Nate Blekarczyk, lui-même utilise cette possibilité en quelque sorte, puisqu'il est parti dans un tour du monde avec sa famille de 9 mois, donc il en est au 7e mois. Et donc, il passe de Airbnb en Airbnb. Moi, quand je l'ai interviewé, c'était le milieu de la nuit. Il était en Indonésie et donc c'était après sa journée de tourisme et il s'occupait évidemment de répondre aux journalistes.
Ouais, c'est une bonne façon finalement de tester, de voir comment ça fonctionne.
Tout
aussi,
à fait.
Hein, le groupe s'est longtemps appuyé sur des marchés touristiques forts, les États-Unis, l'Australie aussi, qui était un des premiers marchés, et l'Europe, avec la France en particulier. Son défi, c'est maintenant d'adresser des marchés peut-être moins matures.
Oui, tout à fait. Il y a eu une quasi-saturation sur certains marché. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a un nombre de propriétaires en hausse sur certains marchés, notamment en France, peut-être l'effet JO. Mais en tout cas, la croissance sur ces marchés est ralentie. Et donc, il faut compenser avec des destinations plus nouvelles. Donc, il y a 220 marchés de Airbnb dans le monde. Et maintenant, l'accent est mis en Europe sur des marchés de taille moyenne qu'il faut évidemment conquérir un à un. Donc, il faut avoir de la patience. C'est le cas pour le marché allemand. Les pays scandinaves, l'Europe de l'Est. Plus loin, en Amérique latine, ça a longtemps été une terre vierge pour Airbnb et maintenant, il y a des résultats colossaux au Brésil. En Asie, c'est la Corée et le Japon qui surperforment. Et en fait, c'est très favorable à Airbnb aussi pour les tendances sociologiques. Ces nouveaux marchés sont souvent des marchés transfrontaliers, c'est-à-dire que les habitants aiment aller en voyage et en vacances à l'étranger. Et donc ça, c'est évidemment une demande que Airbnb est de nature à répondre. Même si un Japonais veut aller en vacances en Espagne, c'est assez facile pour lui de trouver un logement. Et puis, ce sont des marchés où la population est jeune. Et donc, évidemment, le fait de réserver un logement par une appli, c'est assez naturel pour elle, ce qui n'a pas été forcément le cas de populations plus âgées. Et donc, même en Afrique, en fait, au Ghana, au Libéria, en Sierra Leone, il y a des milliers d'hébergements disponibles. Le maillage est absolument exceptionnel.
And so now, it makes sense that we take Airbnb public so we can share Airbnb with more of the world.
Bienvenue dans la famille Nasdaq. Airbnb est entrée en bourse à New York en décembre 2020, une entrée remarquée hein, puisqu'elle avait même fixé un prix pour ses actions supérieur à la fourchette définie par ses banques conseils, le signe d'une très forte demande. L'entreprise vaut aujourd'hui près de 100 milliards de dollars, c'est dire si on est loin de la licorne des débuts. C'est presque 10 fois plus que la valeur du géant hôtelier Accor, un succès qui ne fait pas que des heureux d'ailleurs. Airbnb est sous le feu de nombreuses critiques. Pour quelles raisons ?
Alors tout d'abord, c'était des critiques justement des hôteliers, on peut se l'imaginer, mais pas seulement. Il y a eu beaucoup de critiques. Alors au départ, c'était à cause de la pénurie de logements pour les habitants. Donc il y a dans plein de villes ce qu'on appelle les marchés en tension. Évidemment, les locations Airbnb prennent la place de locations de longue durée. Et donc dans plein de villes, ça empêche les locaux de trouver des locations pérennes. On a aussi accusé Airbnb de précipiter la gentrification en fait, de certains quartiers qui étaient assez authentique. Et maintenant, les critiques sont en fait sur un nouveau plan. On l'accuse de favoriser le surtourisme. Donc, on l'a bien vu récemment, il y a eu des manifestations aux Canaries et il y a eu pas mal de dénonciations de voisins contre notamment un propriétaire qui avait loué le toit de son immeuble comme camping pour Airbnb. Et donc, à chaque fois, Airbnb se trouve finalement pris à partie pour ces tendances de surtourisme. Bon, on l'a bien vu dans des villes comme Venise, Barcelone, qui a assez rapidement interdit de louer une chambre pour moins de 31 jours. Il faut aussi un permis pour faire de la location de courte durée pour les propriétaires et ça ne peut pas être plus de 30 nuits par an, donc c'est assez restrictif comme législation. Et on l'a vu aussi à New York depuis le 5 septembre, puisque depuis le 5 septembre, on ne peut plus louer un logement entier à New York pour moins de 30 jours.
Quelle a été la réponse des mairies et des pouvoirs publics ?
Alors, c'est donc vraiment une réponse des mairies, puisque c'est au cas pour cas et c'est les municipalités qui prennent des mesures si elles le souhaitent. En fait, dans le monde, sur les 220 marchés de Airbnb, 80% sont régulés, donc c'est très important. En France, il y a 4000 villes en tension et sur ces 4000 villes, il y en a 250 qui ont pris des restrictions plus ou moins importantes. Par exemple, à Paris, depuis 2019, il y a un blocage automatique à 120 nuitées par an pour la résidence principale, donc on ne peut pas louer plus que ça quand on est propriétaire. Saint-Malo a mis en place des réglementations ce qu'on a appelé les plus drastiques de France en 2021, mais ça n'a pas vraiment fonctionné.
Elle en a fait son métier et gère toutes ses réservations depuis un site spécialisé. Mais cet été, la mairie a changé les règles du jeu. Nathalie ne peut désormais louer qu'un seul de ses logements saisonniers.
Saint-Malo, justement, la cité corsaire ne veut pas être Disney-Malo, c'est ce qu'on pouvait lire sur une banderole l'été dernier. TF1 évoquait cette réglementation qui n'autorise par exemple qu'un seul logement à la location par propriétaire. La ville de 47 000 habitants accueille jusqu'à 250 000 visiteurs par jour en saison haute. La réglementation n'a pas vraiment eu les effets escomptés, Isabelle ?
Il n'a pas été très important. Alors, ils ont mis en place des quotas par quartier, qui ont d'ailleurs été contestés en justice par certains propriétaire, donc ça a été une bataille judiciaire et tout n'est pas passé. En fait, la mairie a constaté qu'il n'y avait que 400 logements qui étaient passés de la courte durée à la longue durée. Donc, quelquefois, les critiques sont sur la manière dont ça a été conçu, mais aussi sur la manière dont c'est appliqué. En tout cas, dans les faits, le intramuros, notamment, est encore débordé de touristes et les habitants n'ont pas repris possession de la ville pour un délogement de longue durée.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe finalement de résultats au beau fixe, hein. L'entreprise est devenue profitable alors que ces réglementations, qu'on va dire en réglementations anti-Airbnb, pleuvent un peu partout dans le monde.
Alors elles pleuvent sur certains marchés historiques qui font évidemment couler beaucoup d'encre, donc on peut penser à New York qui a longtemps été le bastion de Airbnb et à un moment donné il y avait les deux tiers de son chiffre d'affaires qui était fait à New York, mais avant cette réglementation très drastique par exemple, le chiffre d'affaires réalisé à New York était de 1%, donc il y a plein de villes qui surcompensent en fait les localités où effectivement c'est plus dur et c'est plus régulé. Il y a aussi plein de villes qui ont envie d'accueillir des Airbnb parce qu'il n'y avait pas d'offres hôtelières ou parce que elles n'étaient pas considérées comme très sexy. Et donc finalement, ils ont un maillage tellement important que certaines destinations surcompensent d'autres.
La réplique grandeur nature de la maison de la célèbre poupée va être mise en location. Située à Malibu en Californie, la demeure dispose d'une piscine à débordement, d'un terrain de sport ou encore d'une salle de cinéma.
Le groupe s'est aussi créé l'événement. On a pu le voir lors de la sortie du film Barbie, par exemple.
Oui, alors ils sont très bons pour récupérer les éléments de pop culture. Donc il y a eu, par exemple, avant, à Calpe, en Espagne, un logement Squid Games qui était fait dans un immeuble de Ricardo Bofill. Pour Le Seigneur des Anneaux, on avait une cabane pour Hobbit à Orlando, dans l'état de Washington. Par rapport à Twilight, il y avait la maison de Bella Swan dans l'Oregon. Donc c'est vrai qu'ils savent créer l'événement. C'est quelquefois une volonté de Airbnb, c'est quelquefois une volonté des propriétaires qui mettent leur logement et qui font leurs annonces de manière à récupérer des éléments de pop culture. On peut penser à Emily in Paris. Alors quand on voit la série, on doute d'avoir envie de loger dans un logement comme Emily, mais il y a certains propriétaires qui proposent ce logement qui en fait n'existe pas, mais évidemment qui est situé dans les beaux quartiers de Paris, à côté du restaurant iconique, et donc ça peut être un argument de vente.
Mademoiselle, bonjour.
Une pain au chocolat.
Un, pas une, un pain au chocolat.
Emily in Paris et ses croissants, j'aurais aimé l'entendre dire avec son accent une chocolatine. Pour la maison de Barbie, tout en rose, il s'agissait d'une chambre privée pour deux voyageurs, avec comme hôte Ken. Le logement est parti comme des petits pains d'ailleurs. Vous auriez envie d'y dormir, Isabelle ?
Non, pour moi c'est un peu trop girly, mais il y a une autre maison pas loin à Montecito qui était la maison de Gwyneth Paltrow, qui a en fait ouvert une partie de sa maison qui a l'air vraiment très luxueuse, mais sans doute un peu moins bling bling, avec le spa et la piscine. Donc c'est pour deux voyageurs, et ça peut-être que ça pourrait être intéressant d'y passer une nuit.
V'là le mois de mai mon préféré.
Bah ouais, trois jours fériés.
Mais non, c'est pour nous l'occasion
de faire chier mon patron,
de se recueillir, commémorer.
Ouais, genre grasse matinée.
La petite chanson de Charlie Estilien, Vive les ponts. On entre dans la saison des vacances aux États-Unis et des ponts en Europe. Et le 1er mai, Airbnb a donné rendez-vous à la presse à Los Angeles avec la promesse d'annonces et de nouvelles innovations, avec un art consommé de la discrétion qui rappelle aussi Apple, hein, comme quoi il n'y a pas que la façon de concevoir des publicités. Qu'est-ce que le groupe pourrait annoncer ?
Alors, on avait beaucoup d'attentes par rapport à ces annonces parce qu'on pensait qu'il pouvait s'agir d'une diversification annoncé du business model. Brian Chesky avait parlé depuis plus ou moins longtemps de devenir le concierge ultime grâce à l'intelligence artificielle. Ça, ce serait très intéressant. Par exemple, on pourrait louer son Airbnb et en même temps louer sa voiture pour la durée des vacances, avoir à l'intérieur du Airbnb des courses déjà faites parce qu'on a passé des commandes dans une épicerie en ligne. On pourrait avoir des spectacles associés quand on va dans une destination et on veut un billet de concert ou un billet pour un événement sportif. Alors ça, ce serait très intéressant, c'était très attendu, mais apparemment, ils ne sont pas tout à fait prêts, ou du moins, ils n'ont pas encore réfléchi exactement à cette offre. Et donc, j'ai l'impression que ce sera surtout des annonces extrêmement sexy, mais qui ne vont pas changer la nature du business model.
. 2024, année olympique, difficile d'y échapper, difficile de passer à travers. Quels sont les espoirs pour Airbnb dans la capitale parisienne et pour la région parisienne?
Alors, on attend 500 000 voyageurs qui logeront dans des Airbnb. Selon l'Office de tourisme, en fait, sur l'ensemble des visiteurs, 2 millions auront besoin d'un logement. Or, il y a 150 000 chambres d'hôtel à Paris. Donc, évidemment, ce serait bien qu'une partie des visiteurs logent dans les Airbnb. Il y a certaines villes, depuis un an, qui en fait, font l'objet de recherches vraiment frénétique sur Airbnb. Les recherches ont été multipliées par 11 pour Paris, bien sûr, mais aussi pour Saint-Denis, pour Boulogne-Billancourt, pour Versailles et pour Clichy. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que donc, Airbnb est partenaire officiel des Jeux Olympiques. C'est la première fois. Et en fait, pour une fois, tout le monde a intérêt à ce que ça marche, parce que sans eux, il y aura un gros problème de pénurie de logements. Et donc, même la mairie de Paris, qui a longtemps été très réticente par rapport à la proposition d'Airbnb, a quand même intérêt à ce que ça se passe bien avec eux cette fois-ci.
Et le groupe espère que ça peut lui attirer de nouveaux hébergeurs, c'est ça ?
C'est ça. Sur les Français qui ne sont pas encore sur Airbnb, les Parisiens et les Franciliens qui ne sont pas encore sur Airbnb, il y a un an, on disait, selon un sondage IFOP, que 20% des gens avaient envie de mettre leur résidence principale sur Airbnb. Peut-être que certains ont réfléchi depuis, et c'est vrai que c'est peut-être pas si facile qu'on peut l'imaginer. C'est très facile techniquement, mais est-ce qu'on a envie de laisser un logement, d'être là pour assurer toute la maintenance d'un logement. Donc, en tout cas, il y a un fort intérêt de nouveaux hébergeurs pour poster leur logement. Et évidemment, c'est un des enjeux de Airbnb de pérenniser cette nouvelle offre pour qu'elle reste ensuite sur la plateforme au-delà des JO.
Il y aura un effet sur les prix, sur les tarifs pratiqués à Paris ?
Alors oui, Airbnb a raison, je trouve, de dire que les tarifs extravagants qu'on voit encore sur le site, ce sont des annonces qui ne sont pas pourvues. Et pourquoi elles ne sont pas pourvues ? C'est peut-être parce que certains prix sont absolument exagérés et que personne n'en veut. Alors il y a eu deux en fait vagues. Tout d'abord, les étrangers qui ont acheté des logements sans doute très chers au moment où ils achetaient leurs billets. Donc ça, c'était avant le début de 2024. Et maintenant, il y a un temps des Parisiens avec plus d'offres et donc, évidemment, des offres aussi qui sont plus dans le marché. Moi, j'ai parlé avec une nouvelle hébergeuse, Thérèse, qui est près de la Porte d'Orléans. Elle a mis son logement à moins de 200 euros la nuit. En une semaine, elle a trouvé, évidemment, preneur pour la durée totale des Jeux olympiques et paralympiques.
Ouais, parce que ça, c'est un des enjeux hein, finalement pour Airbnb, pas seulement attirer les touristes, leur donner envie de voyager et de venir loger dans les appartements loués sur Airbnb. L'entreprise doit aussi convaincre finalement de nouveaux propriétaires de leur confier leur logement. Ce sera une des clés aussi du succès futur du Californien.
Tout à fait. Pour l'instant, il y a 5 millions d'hôtes. L'année dernière, il y a eu 1 million de plus d'annonces actives sur les 7,7 millions, donc c'est 18% de plus sur l'année, donc ça c'était très bien pour eux. C'est ce qui fait leur différence avec toutes les autres infrastructures hôtelières, chambres d'hôtes, etc. C'est d'avoir cette possibilité de, virtuellement, on cherche quelque chose dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle banlieue, dans n'importe quelle campagne, et on trouve un logement Airbnb. Les propriétaires, ceux qui sont motivés par la location, disent tous que c'est quand même extrêmement facile de poster une annonce. Il y a maintenant des outils d'intelligence artificielle qui aident à rédiger, à présenter l'annonce, notamment les photos. Ça a toujours été la question de, évidemment, comment on donne envie aux gens. Il y a aussi des outils pour regarder un peu les prix qui se pratiquent dans le même quartier pour le même type d'offre. Donc, ça permet d'orienter aussi les recherches. Et on peut même se faire, en fait, aider par des hôtes plus expérimentés dans son coin qui vous mettent le pied à l'étrier.
Airbnb a posté l'an dernier plus d'un million de nouveaux logements. Parmi ceux-ci, celui de Thérèse que vous avez rencontré, vous en parliez tout à l'heure. Elle était cliente d'ailleurs avant de devenir hôte. Qu'est-ce qu'elle retire de cette expérience ?
Alors Thérèse, elle est en retraite depuis un an et visiblement, elle a très envie d'avoir des relations sociales avec beaucoup de monde et donc elle envisage le Airbnb un peu à l'ancienne. Ce qui est évidemment, quand on est consommateur, on voit qu'il y a aussi des Airbnb un peu industrielle, sans charme. Elle a envie de loger les gens comme elle aurait aimé être logée. Donc, elle a transformé son appartement de manière à ce qu'il soit agréable. Il y a un petit jardin, c'est en même temps très près de Paris. Mais elle me racontait qu'elle avait chiné de la vaisselle, qu'elle avait acheté des jolis draps. Enfin, elle a vraiment une offre qui est très qualitative. Et par exemple, pour les JO, elle n'est pas parmi les Parisiens qui vont fuir les JO. Elle tient à ce qu'elle accueille en personne le monde entier qui débarque chez elle et elle veut leur donner des conseils. Donc, c'est vraiment une super hôtesse qui dit que c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais en même temps, elle adore avoir les relations avec le monde entier et montrer que tous les Parisiens ne correspondent pas à cette réputation pas toujours très sympathique qui nous est faite.
En fait, c'est voyager tout en restant à la maison.
C'est tout à fait ça, oui.
Merci Isabelle Lesniak pour ce voyage dans la galaxie Airbnb. Le toit du monde, c'est le titre de votre enquête à retrouver dans les Éco-Weekends. Je vous mets le lien dans le descriptif de ce podcast. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Your personal info, like addresses, phone numbers and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.